Radio Okapi. Grande interview.
Célébration ce samedi et dimanche du double assassinat Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, il y a de cela 60 ans exactement, jour pour jour, que le tout premier ministre congolais a été assassiné à Elisabethville, l'actuelle ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Et c'est dans la même province qu'est sorti un Lumumbiste qui a passé une vingtaine d'années dans la rébellion au régime du président Mobutu. Laurent Désiré Kabila, puisqu'il s'agit de lui, a aussi été assassiné il y a 20 ans jour pour jour, après avoir dirigé ce pays pendant 4 ans. Que retenir de ce double assassinat? Quelles leçons tirer du combat de Lumumba et Kabila? Grande interview reçoit dans ce numéro le professeur Pamphile Mabiala Mantouba Ngoma, historien et professeur d'université, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Kinshasa. Le professeur Mabiala est auteur d'une centaine de publications sur notamment l'histoire politique du Congo. Avec lui, nous parlerons successivement d'Emery Patrice Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, du lien entre les deux ainsi que des leçons politiques à tirer de leur combat. Produite sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangori. Merci de rester à l'écoute. Chers auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans ce nouveau numéro de Grande Interview. Nous recevons le professeur Pamphile Mabiala en marge de la commémoration du double assassinat Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba. Professeur Mabiala, vous êtes historien, bienvenue dans Grande Interview.
Bonjour.
Tout de suite, professeur, que savez-vous de Patrice Emery Lumumba?
Bon, Patrice Emery Lumumba, c'est un leader congolais. Né au Sankuru, et qui au départ, à sa naissance, portait le nom de Esaïe Okita Sombo. Autodidacte de formation, mais esprit très, très éveillé. Et finalement, il a pu travailler à la poste, à Kisangani, là, comme chargé de service de compte-chèque postaux, avec les difficultés qui s'entraînaient à l'époque. Donc, Patrice Emery Lumumba, à la veille de l'indépendance, bon, il voulait être Mundele Penza au départ, hein, avec coiffure d'Européens, nez papillon. La plupart des évoluaient de l'époque, ils ajoutaient un prénom européen au premier de leur baptême. Alors, Patrice Emery Lumumba, il a ajouté Emery. Patrice Emery Lumumba. Ça, c'est le Lumumba avant 1958. C'est le Lumumba qu'on ne connaît pas assez. Le Lumumba que nous connaissons, c'est depuis la conférence panafricaine d'Accra qui est revenu, qui devient très nationaliste. Avant, il était collabo, en fait.
Alors, professeur, dans votre ouvrage « À la découverte de Patrice Emery Lumumba » publié en 1996 et 1997, vous êtes revenu sur la crise politique de 1960. Quelles leçons historiques pouvons-nous tirer de cette crise qui a amené à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba?
Alors, la crise de 1960, d'abord, c'est une crise qui est née dans une conjoncture historique déterminée. L'événement du 4 janvier 1959, là, c'est une affaire de l'Abaco. Lumumba, d'ailleurs, était, avec Mobutu, s'est moqué des gens qui marchaient de ce jour-là. Et s'est moqué des gens de l'Abaco à Imka qui voulaient marcher. On a interdit la marche. Et alors Lumumba dit, mais voilà le Bakongo, là. Bon, bon. Mais depuis ce 4 janvier 1959, c'est pourquoi le 4 janvier c'est important. Non pas parce qu'il y a eu des pillages énormes dans la ville, mais c'est parce qu'à partir de ce moment-là, la Belgique s'est dit, notre colonisation au Congo, c'est fini. Alors, les États-Unis ont dit, puisque la domination des Belges est finie, nous, il faut qu'on reprenne la relève. Sinon, le Congo risque de passer entre les mains des communistes. Alors, donc, tout le monde se précipite. Pendant que la table ronde, janvier et février 60, la table ronde politique à Bruxelles, les quais d'Orsay, à Paris, envoient une délégation pour dire qu'il y a les droits de préemption, droit de reprise du Congo par la France au cas où les Belges sont fatigués. Mais les Américains ont dit c'est notre affaire. Bon, au mois de juin, le 22 juin, lorsqu'on décide qu'il faut un gouvernement, les postes qu'on donne aux Katangais sont minables. les Qataris disent, tiens, il faut qu'ils nous prennent. Nous, on amène 60% de l'argent du pays et ils nous donnent que des ministères minables. Bon, et les Kassayens, Albert Kalonji, tout ça. Bon, eux aussi disent que ça ne va pas. Donc, c'est des mécontents de la façon dont on répartit les postes gouvernementaux qui se réveillent. Déjà, à la veille de l'indépendance du 29 juin, les Katanga voulaient déclarer sa sécession, déjà. Mais on a empêché ça pour qu'on n'abîme pas la fête, parce que le roi allait arriver lui-même pour proclamer l'indépendance. Le discours du roi, c'est dire que reconnaissez les droits du bienfait de la Belgique pour le Congo. Le Congo, avec notre roi bâtisseur, Léopold II, a bâti un empire puissant. Voilà les produits, bien fait, nous vous livrons les produits, mais faites attention à vous-même. Ça, c'est le roi de Belgique. Kassavubu va dans un discours de reconnaissance totale, sans critique de l'ordre colonial. Alors Lumumba dit, voilà, mes amis, indépendance, c'est bien aujourd'hui. Donc le discours de Lumumba est adressé d'abord au peuple congolais et au peuple africain. Il dit, nous avons l'indépendance, dit Lumumba. Mais nous avons vécu 80 ans de colonisation et fouetté matin, midi et soir. Parce que nous étions des nègres noirs, on disait tu. Donc ce jour de chance, ce jour de gloire, c'est un jour de libération. Donc il y a un malentendu déjà ce jour-là. C'est que pour les Belges, la décolonisation du Congo, c'est une continuité de la Belgique. Donc 5 jours après la proclamation, il va y avoir des troubles au camp Kokolo. Parce qu'on a dit que l'indépendance, c'est pour les civils. Pour les militaires, il n'y a pas d'indépendance. Avant l'indépendance, égale après l'indépendance. C'est inacceptable.
Donc, professeur, pourquoi on a exécuté Lumumba?
Et on dit qu'il a fait une diatribe, une critique acerbe contre le pouvoir colonial dans une conjoncture de la guerre froide, hein, où les Occidentaux et les Orientaux, et le Congo était un grand enjeu. Et donc son discours a plu aux communistes et déplu aux Occidentaux. Donc c'est un mauvais garçon, il faut le punir. Donc c'est après le discours ce jour-là qu'on a décidé de le tuer, le 30 juin déjà là. Donc, on l'a condamné à mort pour faute de lèse-majesté. Toi, le petit nègre, comment tu peux t'autoriser à humilier les rois lors d'une cérémonie? Voilà la cause principale de la mort. Alors, on dit, Lumumba est communiste. Lumumba, tout ce que vous racontez là sur moi, c'est pas vrai, dit Lumumba. Mais je suis nationaliste, tout simplement. Mais on dit de moi que je suis communiste, c'est pas vrai du tout.
Alors professeur, 20 ans plus tard, en 2017, vous avez encore publié un autre ouvrage sur la violence coloniale dans les mémoires belgo-congolaises. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du combat de Lumumba? Qu'est-ce qui vous inspire?
Mabikeland a dit que c'était un lumumbiste, hein, un grand lumumbiste. Il a dit que les successeurs, les familles héritées de Lumumba n'ont jamais été dignes de la pensée et de l'engagement politique de Lumumba. Parce que beaucoup de choses qu'il n'aurait pas acceptées, les gens les ont faites après sa mort. Ces bourreaux sont devenus ses fameux admirateurs. Donc, Lumumba, qui n'est pas communiste, Lumumba qui est nationaliste, Lumumba a voulu que d'abord l'histoire du Congo soit écrite par des Congolais. Et pas l'histoire qu'on nous apprend déformée, qu'on nous apprend dans des livres d'histoire en Europe. Il faut que les Congolais écrivent leur propre histoire pour qu'ils aient une conscience historique et une fierté nationale. Ça, c'est Lumumba qui le dit. Alors maintenant, les gens qui viennent, c'est souvent après lui, c'est des opportunistes. Et on est en exil pour avoir de l'aide sociale. Bon, on se dit Lumumbiste, mais quand on vous pose des questions, il n'y a rien qui sort de la tête de Lumumbiste. Donc Lumumba, c'est ce projet du Congo, fier de lui-même, conscient de son historicité et qui veut exister au monde comme un peuple indépendant, un peuple respectable par les autres peuples du monde. Ça, c'est Lumumba.
Vous êtes à l'écoute de Grandes Interviews sur Radio Okapi. Nous recevons dans ce numéro le professeur Pamphile Mabiala, historien ethnologue, qui nous parle maintenant de Laurent Désiré Kabila, 20 ans après son assassinat. Professeur, malgré la mort de Lumumba, plusieurs jeunes kabilistes ont tenté de poursuivre le combat de leur héros national. C'est le cas de Laurent Désiré Kabila, aussi assassiné alors qu'il était déjà président de la République depuis 4 ans. Quel lien faites-vous entre les deux personnages et leur assassinat?
Bon, disons que d'abord dans les relations internationales du Congo. il y a deux théories qui s'affrontent. Théorie du droit des bienfaits et théorie de l'ingratitude. La théorie du droit des bienfaits, ça veut dire quoi? Sans le roi des Belges, le Congo n'existerait pas. Et sans le roi des Belges, les Congolais seraient restés dans les ténèbres de leurs ancêtres cannibales. Au pays des ténèbres, seraient restés sans étoiles, sans lumière. Alors, les Belges disent, bon, si c'est ça le cas, reconnaissez que les écoles, bonnes écoles que vous avez, des missionnaires, les hôpitaux, c'est nous. Si vous parlez français et que vous êtes devenu fringatable, c'est nous. Donc soyez des enfants qui ont de la reconnaissance vis-à-vis de la Belgique, pas des ingrats. Alors, deuxième théorie, les Congolais disent d'être colonial. Qui doit à qui? Combien le Congo a-t-il coûté à la Belgique? Et comment la Belgique a-t-il coûté? Pendant les deux guerres mondiales, c'est le Congo qui a fait vivre la Belgique. Pendant les deux guerres mondiales. Parce que la Belgique était occupée par les Allemands. Il y a eu, par exemple, pendant la deuxième guerre mondiale, effort de guerre financière, effort de guerre militaire, effort de guerre économique. Effort de guerre économique pendant 120 jours, donc 4 mois par an, on travaille pour la guerre. Et j'ai Camille, Nino Minier, il faut augmenter la production. On s'était poumonné pour la guerre. Et l'effort de guerre continue jusqu'à 47, même après la guerre. Donc le Congolais dit, dette coloniale, bangote. Nous n'avons pas de dette, c'est eux qui nous doivent, parce qu'ils nous ont exploités. Alors, maintenant, pour être un bon Congolais, il faut être ingrat vis-à-vis de la Belgique. Pour que vous soyez nationaliste et congolais, vous avez le devoir, le droit d'être ingrat vis-à-vis des Belges. Et les proclamer, si le monde a voulu faire ça, c'est proclamer devant le Congolais qu'il est nationaliste, en refoulant de papa, en étant ingrat vis-à-vis du papa. Monsieur Kabila arrive la même chose. Oui, moi j'ai mon argent, je gère moi-même. Club de Paris, je m'en fous. Union européenne, je m'en fous. Vos accords de stratégie, je m'en fous. Ok? Des voix d'ingratitude, alors, on dit, Moussa Azan nationaliste, le pouvoir du peuple, le pouvoir pour le peuple, comité du pouvoir populaire, dit très bien. Alors, enfant ingrat. Donc, alors, à vous déterminant comme dans la théorie de l'ingratitude, là, vous devenez un grand nationaliste, comme Lumumba, comme Moussa. Mais alors, la mort vous attend au bout du fusil, là. La mort vous attend.
Alors, professeur, en 2017, vous avez encore écrit sur de Mobutu Sese Seko à Laurent Désiré Kabila, lecture populaire d'une mutation politique. Que peut-on retenir de Laurent Désiré Kabila dans l'histoire politique de ce pays?
Laurent Désiré Kabila, d'abord, vous voyez, à la conférence nationale, on lui a dit de venir. Ne croyez pas que les gens allaient faire abattre Mobutu, que Mobutu était tellement fort, quand il était rebelle, il disait, laissez-le tranquille, moi je ne vais pas voir de... À la conférence nationale souveraine, à un certain moment, on voulait le ramener au bercail, hein. Il dit non. Et puis, à un certain moment, on s'est arrangé quand même pour qu'il soit à l'ordre du jour. On a, les services de renseignement ont empêché qu'il vienne. Donc, Laurent Désiré Kabila, d'abord du temps de, après l'assassinat de Lumumba au Katangala, il était lumumbiste. Alors, il était dans le maquis Fizi Baraka, et puis avec Che Guevara dans le maquis avec les Rwandais déjà à l'époque, hein, dans le maquis. Monsieur Laurent Désiré Kabila a découvert que, bon, de lui-même, il ne pouvait pas chasser Mobutu. Lorsque les Rwandais et les Ougandais avaient besoin de quelqu'un pour chasser, on lui a fait appel. Il était porte-parole de l'AFDEL, hein, spokesman. Alors, Moïse Kabila a voulu libérer le Congo. Il avait une philosophie de Ujamaa. Ujamaa, c'est Tanzanien. Nyerere, Mwalimu, Nyerere. Donc, il a vécu à Dar es Salaam. Self-reliance. Autodétermination. Il est allé apprendre chez Kadhafi le pouvoir, le comité du pouvoir populaire. Pouvoir des rues, démocratie de proximité, démocratie directe. Bon, maintenant, il s'est retrouvé dans un conglomérat, comme il a appelé, d'aventuriers et d'opportunistes, venant de tous les coins de la région qui étaient dans l'AFDES. Il a appelé conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes qui veulent profiter de prendre le pouvoir de l'État de nouveau pour exploiter le peuple. Donc, en même temps, il veut libérer le peuple. En même temps, il a été porté au pouvoir par les pays voisins. Et donc, il a vu la corde de cou. Bon, comme il a vu la corde de cou, c'est vivre ou mourir. Les voisins qui les soutenaient disaient que s'il ose nous abandonner, il perd sa tête. Il y a le prix de la guerre. Il peut pas nous chasser comme ça. Et vous souvenez que lorsqu'en 98, il a décidé de les chasser, il a dit, mais Bizi, moi je les prenais pour mon fils. Et puis le matin, il se réveille, hein, et il dit que lui aussi est en danger de mort, il veut rentrer chez lui. Il dit, tu vas où? Parce que toi tu es Congolais. Même ceux qui se disaient Congolais, bon, Le matin, se réveille, il les voit filer vers ses yeux.
Alors, professeur, au regard de votre publication « Système capitaliste et guerre post-coloniale en RDC », pourquoi Laurent Désiré Kabila avait-il été tué?
Bon, Laurent Désiré Kabila, d'abord, à un certain moment, nous fixe, c'était quand vous arrivez au pouvoir, on vous fait signer des contrats. À Lubumbashi, déjà, Britanniques, Américains, Chinois, tout le monde courait. Quand il arrivait quelque part à Kisangani, les hommes des multinationales, là, on va les rencontrer quand il y a Kisangani à l'hôtel. Dès qu'il arrive à Lubumbashi, tout le monde court pour signer des contrats parce qu'il n'a pas encore le temps avec les services qui vérifient. Contrats léonais, c'est des contrats non encore correctement vérifiés et où on vous roule, comme il avait besoin des gens qui contribuaient à la guerre, pour la guerre. Et ils ont signé tellement de contrats qu'à un certain moment, c'est des contrats intenables. Alors, donc, Mouzé, il se retrouve coincé. Coincé par ceux qui l'ont porté au pouvoir. Alors, maintenant, pourquoi on les tue? Parce que le club de Paris, il va là-bas, il constate qu'il tient un discours d'endettement. Il dit, Mobutu, il vous a, nous a endetté. Moi, je vais pas payer les dettes de Mobutu. C'est pas mon problème. Il dit, c'est un bandit. Banque mondiale, Banque africaine de développement. Fonds monétaire, les dettes du pays, il ne les reconnaît pas. C'est vous qui l'avez mis au pouvoir, c'est vous qui avez fabriqué. Moi, je ne paye pas. Première infraction. Refus d'assumer la continuité de l'État, les passifs et l'actif de l'État. Deuxième infraction, non-respect des comportements dans un contexte géostratégique. L'uranium du Congo, quand vous êtes président de la République démocratique du Congo, il faut savoir que l'uranium, c'est pas un bien privé. Parce que l'uranium du Congo, les Américains ont commencé à exploiter les coltans du Congo depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que nous, on n'en savait rien. Et moi, je n'étais pas encore né à ce moment-là. Le cobalt pour fabriquer des avions, le cuivre et tout ça, ça faisait partie de l'effort de guerre. Alors, maintenant, en 1944, on a cherché des solutions pour mettre fin à la guerre. Donc, on a cherché l'uranium de Tchinkolobwe au Katanga. Parce que les savants américains ont trouvé que c'est presque de l'uranium pur. Hein. C'est ça qui a servi à fabriquer la bombe atomique d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais en 1944, avant de larguer la bombe, les trois puissances, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Belgique, se sont réunies et ont fait des négociations sur l'uranium du Congo. Et ils ont pris la résolution que tout leader congolais doit connaître et comprendre et respecter si on veut la paix. Ils ont dit, au temps présent, comme dans les 10 années qui vont suivre, l'uranium du Congo ne sera pas vendu à une tierce personne, à un tierce État, sans l'autorisation de nous trois. Donc, si vous venez, leader congolais, comme vous avez dit, on nous dit, tu ne peux pas vendre l'uranium à l'Irak. L'Irak, c'est des pays qui sont contre l'Amérique et contre l'Occident. Ils peuvent faire des bombes. Il dit, je m'en fous. C'est notre uranium. De quel droit ils peuvent gérer nos affaires? Vous êtes condamné à mort. Condamné à mort, là, on dit, mais c'est le capitalisme sauvage. Hein? C'est le capitalisme sauvage, mais vous êtes condamné. Vous dites à Albright, Albright, secrétaire d'État, il m'a appelé, j'ai craqué le téléphone, bras, un impoli, donc encore comme Lumumba, impoli. Et Lumumba fait forte malaise, majesté, humilier les rois les jours de l'indépendance. Vous savez Kabila humilie les Américains. Allez, ils doivent mourir, voilà.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit le professeur Pamphile Mabiala, historien et ethnologue. Il est doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Avec lui, nous parlons à présent des leçons à tirer du combat et de l'assassinat de Kabila et Lumumba. Professeur, 60 ans après l'assassinat de Lumumba et 20 ans après l'assassinat de Kabila, la RDC peine toujours à se relever. Peut-on penser que ce double assassinat a mis en sac l'espoir de tout un peuple de jouir des richesses de son pays?
Bon, disons déjà au XVIe siècle, il y a un prêtre dominicain qui a parlé de la théorie de la destination universelle des biens de l'humanité. Les biens qui sont sur la terre appartiennent à l'humanité tout entière. Donc, si vous dormez sur votre cuivre, à l'époque coloniale, on marchait sur les diamants. C'était des pierres dans les cours, dans les villages. Et puis, on avait un jour le Muzungu venir ramasser des pierres par terre. C'est un fou, hein, c'est là. Donc, sachez que le Congo tel qu'il est là, il est le produit de la conférence de Berlin. Il y a eu 14 puissances à Berlin qui ont décidé que le Congo serait un Congo. La Belgique était État en 1830, c'est la volonté des diplomates français et hollandais qui ont décidé de créer la Belgique qui n'existait pas en 1830. Et c'est comme ça que quand on arrive à Berlin, les Belges n'existent presque pas encore. Bon, alors, donc, à partir du moment où vous savez que le Congo, c'est le produit de la volonté internationale. Et cette volonté, on a dit, liberté du commerce et de navigation sur les bassins conventionnels du Congo. Donc, tous les signataires là, c'est les propriétaires du Congo, ok? Quand on a voulu faire le projet des Chinois là, Union européenne dit, et nous? Et on donne trop d'avantages aux Chinois, et nous qui avons bâti le Congo, vous faites quoi de nous? C'est nous qui donnons l'ordre de la régie des eaux à la République. Donc, ils vous arrêtent, et si vous persistez, on tape. Donc, les droits de la conférence de Berlin, les puissances là, les 14 puissances qui sont les pères fondateurs du Congo là, ont toujours beaucoup à dire sur le Congo. Et si vous donnez un avantage, il y a la clause de relation la plus favorable au droit international qui vous poursuit. Bon, droit de regard. Donc, ce que vous faites, on regarde. On regarde. Donc, nous sommes toujours un État global. Alors, en 1953, par exemple, après la guerre, on a décidé de créer la base de Kitona et la base de Kamina comme base retranchée de l'OTAN en disant qu'en cas où il y aurait une troisième guerre mondiale, la Belgique nous occupait. Les bases belges seraient dans cette ville-là. Alors vous voulez tout que vous dites, oui, moi, je suis chez moi, souverain, tout ce que vous voulez, ignorant tout ça. On vous tue. Je l'ai dit de manière sévère, mais parce qu'on ne le sait pas. Alors maintenant, en 60, on a tué Lumumba pour une raison que nous venons d'évoquer. On a tué Mosé pour une raison que nous venons d'évoquer. Les générations futures doivent être plus responsables, connaître d'abord leur histoire, assumer leur histoire et surtout faire en sorte que le Congo, comme la Zambie, là, après c'est le même minerai que le Congo, hein, mais la gouvernance de l'État est telle que ça marche mieux. Les cuivres, ça part du Katanga jusqu'à la source de la Zambie, non? Beaucoup de les ressources sont les mêmes, l'Afrique du Sud également. Mais il faut gouverner les hommes, gouverner les biens pour que la base matérielle de l'existence, comme a dit Karl Marx, ne puisse pas, et que la superstructure, donc le monde du droit, le monde de la politique, le monde de l'idéologie, ne détruise pas la base matérielle de l'existence. Sécuriser les gens qui vivent sur votre territoire, défendre effectivement les territoires pas à peu près, de telle manière que finalement les gens aiment leur pays, ils aiment rester là, les étrangers vivent, ils peuvent faire des affaires tout comme les Congolais dans ces pays-là. Alors, dans la longue durée, on peut vous respecter. Et je crois que c'est un plaidoyer pour la conscience historique, la responsabilité des acteurs et des dirigeants pour un bon futur pour notre pays. Voilà les souhaits qu'il faut avoir en pareille circonstance. Et surtout faire en sorte que, pour les mêmes raisons, nos dirigeants ne puissent pas chaque fois mourir et passer un mandat épisodique au pouvoir.
Alors, professeur, comment analysez-vous le contexte politique actuel au regard des multiples péripéties qu'a connu la République démocratique du Congo?
Il faut nous prendre en main, comme a dit Mouzé. Organisez-vous, prenez-vous en charge, donnez le pouvoir à subsidiarité, faites en sorte que les provinces, les entités territoriales décentralisées puissent être des foyers de vie, des centres promoteurs du développement dans le pays. Voilà ce qu'on attend de nous. Bon, vous prenez les pays voisins, là, la population du Rwanda, c'est comme la population de Kinshasa, ça va. Donc, le gouverneur de Kinshasa, avec sa population, c'est presque autant que le Rwanda. On s'étonne que cette ville, province, ait la même population, et on admire celui qui administre ces 8 millions correctement, ou 10 millions correctement, et l'autre qui ne le fait pas. Brazzaville, c'est à peu près 2 millions d'habitants. C'est une ville, pratiquement congolaise. Donc, les unités de grandeur. Le Congo, il y a des villes qui sont, Kinshasa se trouve à Paris, et Lubumbashi à Moscou, hein. C'est une distance de 2000 km de vol. Donc, la grandeur du Congo, c'est pas la théorie. La grandeur du Congo, elle est physiquement géographique, physiquement, potentiellement dans les ressources du Congo, dans sa population. Et lorsqu'on gère des grandeurs, ben, en Chine, par exemple, quand il y a des masses, la police ne blague pas. La police est sévère jusqu'au bout. Vous crachez, faut payer la main. Donc, on empêche d'un pays, plus il est grand, plus il faut prendre des responsabilités, des performances administratives dans l'administration, la management de l'État, la gouvernance de l'État. De telle manière qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Sinon, vous ne gérez que des catastrophes. Et à la fin, s'il y a trop de mécontents, il y a le terrorisme dans le pays. Les gens vont chercher à régler eux-mêmes les problèmes par la violence. Et il faut éviter cela par une bonne gouvernance et un état de droit.
Alors la toute dernière question, professeur, quelle attitude la classe politique congolaise devrait-elle adopter pour honorer l'image de nos héros nationaux?
Bon, ça doit être d'abord toutes nos fêtes, là c'est dans la méditation. Hein. Bon, nous n'avons pas le temps de fêter correctement, même nous ne savons pas. L'indépendance, ça se fête, si vous êtes dans la méditation, je me demande pourquoi. Les fêtes de l'armée, on les a supprimées. Vous les entendez encore 17 novembre dans le temps, hein, c'était fête de l'armée. Mais une armée doit être fêtée. Pour que les jeunes aient le courage d'aller sous les drapeaux et que les voisins voient que vous êtes puissants par des défilés et que vous respectent, on est peur de vous même si vous ne pouvez rien faire contre eux. C'est ce qu'on appelle des politiques de dissuasion. Vous rendre crédible, l'image crédible de l'État, l'image, on dit, ils sont puissants. Vrai ou faux, même démontrer. On ne peut pas envoyer des petits garçons aller accueillir un chef d'État à l'aéroport. Il faut des gaillards bien bâtis, bien habillés, bien nourris. Alors on va sentir que ce pays existe. Et c'est cela. L'État, ce n'est pas de la théorie. L'État aussi, c'est que l'État est fondé sur ce que j'appelle des formules, des lois et règlements, constitution, lois et règlements, des credendas, des idées fortes auxquelles on croit. Paix, justice, travail, c'est des idées fortes auxquelles on croit. Alors maintenant, troisième élément, c'est Miranda. L'État doit être miroité. Par compagnie aérienne nationale, compagnie maritime nationale. Il faut que toutes ces choses-là puissent miroiter, refléter, envoyer la lumière de que l'État existe réellement comme puissance. La puissance, ce n'est pas tirer sur des gens, mais c'est surtout miroiter. Miranda, Air Zaïre à l'époque, Ecopepa, Afrique Mobimba, Paris, Rome, vous arrivez, votre avion est là. Et vous montez fièrement, personnel, pilote, tout le monde, comme Zaïrois. Il faut retourner à un État qui a du contenu, pas à un État qui ressemble à une coquille vide.
Professeur Pamphile Mabiala, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Fin des grandes interviews sur Radio Okapi. Cette émission vous a été présentée par Michel Kifindangoy sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Rendez-vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05. Merci de rester fidèles à la fréquence de la paix. Au revoir.